Dans les salins des Gueumortes,
le ciel est bleu,
l'horizon est dégagé,
la terre est sèche
en fonction du climat. Il y a beaucoup de sable,
il y a beaucoup de sable
et la mer.
Le ciel est d'un bleu profond, souvent sans nuages, créant un contraste frappant avec les paysages.
Je vois une montagne de sel avec du sable et avec un ciel bleu.
Au Salin, il y a la montagne de sel.
Je vois des bassins et des étangs peu profonds remplis d'eau salée qui scintillent sous le soleil de l'été.
Il y a aussi les sels marins,
ils sont sous forme de cristaux blancs qui se forment au fur et à mesure de l'évaporation de l'eau.
Et selon l'angle du soleil, je peux voir des reflets roses pâles ou des éclats brillants.
Il y a aussi de la faune locale.
Des oiseaux notamment,
des flamants roses, les goélands, les mouettes, aigurettes, les canards, les ragondins, etc.
Il fait très chaud, très sec.
Sécheresse.
La chaleur estivale est intense, l'air est souvent lourd et saturé de chaleur, mais aussi avec l'odeur caractéristique de l'eau salée.
L'odeur de la mer, de l'iode.
J'entends du silence, des cigales, des flamants roses, des bus.
Le petit train des Salins, les voitures, les touristes provoquent du bruit.
On entend les véhicules sur la route plus loin et sur les montagnes de sel, ils travaillent avec des machines industrielles.
Pas loin, on trouve des chevaux et des taureaux.
Je ressens de la chaleur, du bonheur.
C'est une émotion agréable.
En voiture, on prend la voie rapide, celle qui passe entre la plage et les étangs. On passe un rond-point, on traverse le canal, voici Aigues-Mortes. Ses remparts, les Salins dans le fond, c'est vrai que c'est beau. Quand on découvre la ville, ça fait tout de suite son petit effet. Je m'appelle Martin Baudrero, je suis journaliste. Pendant 3 mois, avec Anna Buy, réalisatrice sonore, on a accompagné une classe de 4e du collège Irène Joliot-Curie. Le résultat, c'est ce podcast, une plongée dans un passé qu'Aigues-Mortes a parfois tenté d'oublier. C'est cette histoire que vous allez entendre. Nous sommes en 1893, on est au mois d'août, la récolte du sel bat son plein. C'est la principale industrie de la ville. Dans les Salins, les ouvriers crèvent de chaud. Ils se répartissent en 2 groupes. Il y a les Ardéchois, des Français venus de l'arrière-pays, et des immigrés italiens qui viennent chaque été pour la récolte. Entre eux, une dispute va éclater. Elle va se transformer en bagarre, puis finalement en massacre. Les 16 et 17 août, les ouvriers français et les habitants d'Aigues-Mortes pourchassent les travailleurs transalpins. Des émeutes qui vont causer la mort de 10 Italiens, faire 17 disparus et une centaine de blessés.
La violence des événements d'Aigues-Mortes, on peut dire que c'est le plus grand drame de l'histoire de l'immigration contemporaine.
Aigues-Mortes, c'est un drame.
Nous allons vous raconter l'histoire d'une nuit tragique, une nuit où tout a disparu par magie. Tous les jours on se casse le dos à marcher avec des brouettes trop surchargées. Les Français jaloux d'autres personnes fassent mieux le travail. Les Italiens ralentis par le rythme des Français. Au bout d'un moment, à force de se frapper, ils criaient aïe et ça a pété. Dans la ville, tout le monde s'affole, c'est la peur. Les Français s'aiment la zizanie. Une boulangère sauve un groupe d'Italiens dans l'horreur. Plusieurs des leurs meurent en agonie.
Sel cruel. Mémoire enfouie d'Aigues-Mortes, un podcast rappé et raconté par les 4e B du collège Irène Joliot-Curie, Aigues-Mortes.
Lecture d'archives, un ouvrier italien témoigne des conditions de travail au Salin du Péquet, à Aigues-Mortes.
Giuseppe Alpe, 21 ans, dans la Gazzetta del Popolo. Je travaillais à Péquet dans une équipe de 150 ouvriers composée en majorité d'ouvriers italiens. On travaillait au battage, on entassait le sel de 5h du matin jusqu'à 7h du soir avec plusieurs pauses. On dormait dans des cabanes où l'on gardait aussi nos affaires sur un peu de paille qu'on nous fournissait gratuitement.
Chant d'ouvriers occitans de l'Ardèche.
En arrivant à Péquet, le bail nous demande si nous voulons travailler.
Que le tonnerre de Dieu qui emporte tout chante la chanson de Péquet.
Pour toujours et à jamais, il faudrait avoir tué père et mère pour aller à Péquet.
En arrivant à la maison, la femme tâte la bourse. De l'argent, il n'y en a point.
Que le tonnerre de Dieu qui emporte tout chante la chanson de Péquet. Pour toujours et à jamais, il faudrait avoir tué père et mère pour aller à Péquet. Si la République savait la vie qu'on nous fait mener, elle ferait brûler Péquet, le Christ, et enverrait au diable le chef.
En cette fin de siècle, l'Italien, il est extrêmement mal vu. Mais bon, il est là.
Luc Martin, aigue-morté et historien.
En France, il y a à peu près 300 000 Italiens qui vivent résidents, voilà, hein, qui sont installés. Eh bien, sur les 300 000, il y en a 200 000 qui sont sur l'arc méditerranéen, principalement dans les bouches du Rhône, ce qui fait une saturation. Les migrants italiens, ils étaient encouragés par le patronat français qui avait besoin de cette main-d'œuvre, j'ai envie de dire, qualifiée, compétente. Donc la France en avait besoin. Donc on les encourageait à venir. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, s'il y en avait autant, c'est parce qu'on les a fait venir. En dépit des populations qui, eux, voyaient ça comme une gêne. Mais le patronat français disait « l'Italien, il a toutes les qualités ». Alors c'est vrai qu'à cette fin de siècle, ce qu'on peut appeler la défense des travailleurs, c'est tout à fait naissant. Les syndicats, c'est le tout début, j'ai envie de dire. Donc on ne défend pas trop le travailleur. Le travailleur, il se défend, il n'a d'une autre retour que la force. Voilà.
Le 16 août 1893.
Dans la Saline, la tension italien-aigue-morté s'accroît de plus en plus.
Une brouette roule sur une planche de bois.
Tu pousses pas assez vite, t'as pas assez de force dans les bras.
Tu m'as trop chargé, saleté d'Italien.
Ferme ta bouche, dépêche-toi à l'air des choix. Tu ne fais pas gagner de fric, même ma mère va plus vite que toi.
Comment t'oses me parler comme ça alors que t'es tellement pauvre dans ton pays que t'es obligé de venir travailler sur nos terres?
Vos terres? T'es l'air des choix, t'es même pas d'ici. Et puis nous les Italiens, on travaille mieux que vous, on mérite un meilleur salaire.
Mais cassez-vous d'ici si vous êtes pas content là.
L'ouvrière des choix dérape et tombe.
Sa brouette se renverse et tous les ouvriers s'esclavent.
C'est pas possible, c'est pas mais, possible.
Fais attention. Attention,
hey, bouge-toi, ramasse ton bordel. J'ai vu des tortues plus motivées que toi.
Arrête, ça sert à rien, Gianni. De toute façon, il capte rien à ce que tu racontes. Cet idiot d'art des choix ne sait pas soulever plus de 3 kilos. Tu vois bien qu'il est crevé.
C'est pas mon problème, il gagne autant de fric que moi alors qu'il faut rien. Tu trouves que c'est logique peut-être?
Qu'est-ce que tu veux y faire de toute façon?
Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. Tu crois vraiment qu'on va te laisser voler nos emplois? Toi et tes compatriotes, vous êtes trop nombreux ici, vous nous dévalisez.
Ma vaffanculo, je te vole pas ton travail, je suis juste meilleur que toi. Sans nous qui travaillons dur et bien, vous gagnerez pas de fric à la fin de la journée. Vous seriez que des clochards. T'es pas capable de faire le quart de ce que je fais.
Mais dis pas n'importe quoi, personne n'a besoin de vous ici. On n'en veut pas de votre aide, vous servez à rien. Rentrez chez vous.
L'Italien se rapproche de lui et le pousse.
L'air des choix tombe par terre.
Aïe!
Fais-moi plaisir, viens me montrer ce que tu as dans le ventre.
Et au secours, les Italiens veulent nous faire la peau.
Aïe.
Une bataille éclate entre Italiens et art des choix.
Donc des altercations avec les Italiens, il y en a dans tout l'arc méditerranéen. Il n'y a pas que Aigues-Mortes, hein, ne vous y trompez pas. Hein. Il y a eu Marseille, les Baux-de-Provence, Sète, même ici le Gros-du-Roi, Salène de Giraud. Partout où il y a eu des Italiens avec des Français en concurrence sur le marché du travail, ça a dégénéré. La seule exception qu'on peut faire, c'est que la violence des événements d'Aigues-Mortes, on peut dire que c'est le plus grand drame de l'histoire de l'immigration contemporaine. Il n'y a pas d'autre exemple en Europe où il y a eu des phénomènes aussi violents qu'à Aigues-Mortes.
16 août, message du procureur de la République au préfet du Gard.
Juge d'instruction et moi-même sommes arrivés à Aigues-Mortes en raison de rixes graves entre Italiens et Français. Plusieurs blessés. Grande surexcitation parmi les 800 ouvriers des salins de Péquer. Troubles à craindre ce matin. 5 brigades avec capitaine insuffisante pour assurer ordre à Péquer et Aigues-Mortes. A été télégraphié au préfet de faire envoyer d'urgence au moins 50 cavaliers.
Après toutes ces histoires, les tensions explosent au sein des salins entre les travailleurs italiens et les Français.
Il raconte que des Italiens tuent des arts des choix, ce qui est complètement faux. Les gens croient à cette désinformation, ce qui commence à faire un regroupement et ce qui crée une véritable chasse à l'Italien. Donc toute personne italienne qui était dans les rues ou dans les magasins commence à se faire frapper.
Des Italiens, il y en a beaucoup d'Aigues-Mortes. Mais ce jour-là, ils étaient pris à partie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on trouvait un Italien dans les rues, dans un bar, dans un estaminet ou autre, une auberge, il était systématiquement roué de coups. Systématiquement.
Beaucoup de personnes veulent les tuer et s'en prendre à eux.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Jean-Luc Martin, je suis l'arrière-petit-fils d'Adélaïde Fontaine, qui était la boulangère de la place Saint-Louis. C'était donc mon arrière-grand-mère. Et cette dame, elle a fait quelque chose dans sa vie qui m'a paru important, c'est qu'elle a sauvé d'une mort annoncée environ une trentaine de jeunes gens italiens.
Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait pour aider ces gens ?
Pour bien comprendre, il faut savoir que nous sommes le mercredi 16 août 1893. En ce 16 août, ils ont tellement eu peur qu'ils sont allés se réfugier chez mon arrière-grand-mère Adélaïde Fontaine, donc la boulangère de la place Saint-Louis.
Plusieurs Italiens se sont réfugiés dans la boulangerie. La boulangère tire le rideau de fer.
Mais pourquoi les Aigues-Mortes réagissent comme ça ?
Parce qu'ils ne veulent pas que les Italiens travaillent au salin. Ils disent qu'on leur vole leur travail. Mais nous, on veut juste travailler. Ça fait des années qu'on vient à Aigues-Mortes pour la saison d'été.
Mais pourquoi on vous pourchasse ? Vous leur avez fait quoi ?
On était au salin quand Gianni a provoqué un Ardéchois parce qu'il ne travaillait pas assez vite. Donc, il nous a fait perdre de l'argent.
Ouais, à Skip, il a insulté un Ardéchois et ça a fini comme ça.
Cette matinée a fini dans la violence. Les Ardéchois et les Italiens se sont battus dans les salins.
Mais pourquoi tout le monde veut tuer ?
Un Ardéchois est venu en ville en disant qu'un Italien avait tué un Français.
Et c'était vrai ?
Non ! Nous ne sommes pas des assassins, mais voilà le résultat. Toute la ville est devenue folle, c'est une véritable chasse à l'homme.
C'est une honte de réagir comme ça. Et en plus, Zod croit en ce mensonge aussi gros qu'une baleine. Leur action, on dirait des petits de 4 ans.
Ouvrez cette porte ! Allez !
C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui leur prend ? La réaction de mes semblables me choque tellement.
Nous trouvons ça stupide qu'ils croient à ce mensonge sans preuve.
Vous avez bien raison, mes pauvres. Vous êtes dans de beaux draps. Vous devez avoir faim. Il y a plein de viennoiseries et de fougasses. Servez-vous.
Merci, madame. Vous êtes bien généreuse. Nous allons pouvoir passer la nuit tranquillement en mangeant de la fougasse.
Ça, je ne sais pas. Ils vont peut-être casser ma porte, ces bourrins. Vous n'êtes pas encore à l'abri totalement. J'espère que la porte ne va pas céder.
Ne vous inquiétez pas, madame, on vous protégera.
Merci, mais pour l'instant, ne parlons pas de malheur.
Adélaïde, c'était la boulangère qui livrait le pain à une équipe d'Italiens dans les salins. Donc ils la connaissaient très bien, ils venaient très souvent à la boulangerie, ces Italiens, et ne sachant où aller, ils sont allés se réfugier naturellement dans sa boulangerie. C'était une dame qui avait à peu près 40 ans, elle était veuve, et elle avait donc 6 enfants à charge. Eh bien, mon arrière-grand-mère, elle n'avait que ça pour élever ses 6 enfants, que la boulangerie. Donc ce qu'elle a fait, et des émeutiers, il y en avait plus de 150-200 sur la place Saint-Louis. Ils avaient des gourdins, des bâtons, des fusils, des fourches, des bouteilles de verre cassées. Et bien, elle s'est mise devant la boulangerie et elle leur a dit « Ici, vous rentrerez pas, ici, c'est chez moi. »
Antonio Capellini, recueilli par le Figaro, 30 décembre 1893. La foule était effrayante à voir. J'ai vu un malheureux Italien tomber, assommé sur la place à coups de bouteille. Une fois renversé, on l'a à moitié écrasé à coups de talon. À l'intérieur de la boulangerie, à chaque minute, nous nous attendions à une catastrophe.
Le lendemain matin.
Gendarmerie, ouvrez, on va vous évacuer.
C'est vrai que la boulangerie a été caillassée. Ça va durer toute l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Mais pas un émeutier n'est rentré dans la boulangerie. Grâce à ça, l'armée qui arrivera le lendemain va sauver de la boulangerie à peu près une trentaine d'Italiens qui étaient terrorisés et qui, grâce à mon arrière-grand-mère, eh bien, ils ont eu un petit peu la vie sauve parce que tout le monde n'a pas eu la vie sauve.
Est-ce qu'elle a été bien ou mal vue après les faits ?
Votre grand-mère.
Voilà, c'est une question extrêmement intéressante ce que vous dites, jeune homme, et difficile d'y répondre. En 1893, pour beaucoup, l'Italien est considéré comme un briseur de grève, de travailler à coût réduit, de faire donc tomber le coût du travail, donc ils sont mal vus. Il est aussi considéré comme un ennemi potentiel, parce que 10 ans auparavant, l'Italie a adhéré aux forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Empire allemand austro-hongrois, qui sont les ennemis de la France. Donc, aider les Italiens, c'était mal vu. Mais est-ce qu'on doit sacrifier, j'ai envie de dire, des vies humaines pour ses convictions, ou est-ce qu'il fallait se ranger aux côtés des émeutiers et systématiquement tout casser ? Moi, je crois pas. Je crois que ce qu'elle a fait, d'abord, tout le monde ne l'aurait pas fait, peut-être. Mais je crois que ce qu'elle a fait, ben, il fallait avoir une certaine forme, un petit peu de courage. Voilà. Elle n'a pas reçu de distinction ni quoi que ce soit. On ne l'a pas félicité de rien. Hein. Elle a été convoquée quand même aux assises d'Angoulême au mois de décembre 1993 hein, pour témoigner. Mais ils n'ont pas fait de cadeau quand même. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas applaudi ni rien. Hein.
Le matin, les gendarmes arrivent pour sortir les Italiens de la boulangerie. Ils veulent les emmener à la gare. Ben, ils vont à la gare juste pour qu'ils s'en aillent d'Aigues-Mortes.
Les gendarmes à cheval escortent un groupe d'Italiens pour les emmener à la gare.
On arrive dans combien de temps ?
Quel enfer ces deux derniers jours, je n'en peux plus de cette violence.
Vous êtes content qu'on vous ramène dans votre pays ?
Capitaine, des tambours !
Un groupe de Français, Ardéchois, Aigues-Mortais, Trimard, arrive dans les vignes. Ils débarquent en jouant du tambour. Ils étaient cachés en embuscade.
Non, les gendarmes !
Arrêtez-vous, c'est terminé, les Italiens, vous rentrez chez eux.
Mort aux Italiens, laissez-nous.
Mort aux Italiens, laissez-nous, bordel.
Puisqu'on vous dit qu'ils s'en vont, vous avez gagné. Maintenant, reculez, calmez-vous.
Non, vous ne comprenez pas, fichez le camp. Ils nous volent notre travail et osent être arrogants.
Dégagez ! On s'en occupe, arrêtez-vous.
Mort aux vaches.
Mort aux vaches,
vivez les chevaux. La chasse à l'ours est ouverte.
Les Français lancent des pierres.
Retournez, vous revenez.
Vous nous volez le travail.
Ils assaillent les Italiens avec des pelles, des pioches.
Gendarmes, regroupez-vous.
Sachez qu'il y aura de grandes conséquences à vos actes.
Nous en fichons.
Nous, on s'en fout.
Retournez dans votre pays, bande de cons.
Calmez-vous, ça va bien se passer.
Mais reprenez-vous, dans tous les cas, on rentre chez nous. Les gendarmes nous emmènent à la gare. On va prendre le train, on s'en va. Laissez-nous tranquilles. Vous méritez la mort.
Compte à vous de voler notre travail et notre argent.
Pas du tout.
Sottise.
Sottise.
Qu'est-ce que je raconte ?
Basta, dégagez.
Hé, hey, par là, revenez.
Ils sont trop nombreux. On doit mettre les Italiens à l'abri.
Le message du procureur de la République au préfet du Gard. Bande individus armés se dirigent Salin, Péquet, où travaillent 350 Italiens. Gendarmerie à cheval s'y est portée conduite par capitaine pour éviter collision. Troupes dont départ est annoncé seront utiles prévenir d'autres bagarres.
Récit du capitaine de la gendarmerie. Mon premier soin fut d'enfermer les Italiens dans le bâtiment des Salins pour pouvoir les défendre et les empêcher d'être massacrés isolément. Quand les Aigues-Mortais parurent, j'essayais de les escorter au calme, mais ils bousculèrent mes gendarmes, enfoncèrent les lits et attaquèrent la maison à coups de pierres et de bâtons, grimpant sur le toit qu'ils défoncèrent en faisant pleuvoir sur les assiégés une frêle de tuiles.
Ces Italiens, en fait, qui sont-ils ? Ce sont des jeunes gens qui ont environ 25 ans. Certains viennent avec leur famille dans les Salins. Ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui viennent ici pour gagner un petit peu d'argent, parce qu'on en gagne beaucoup pendant la récolte du sel. Ils ne demandent rien à personne et ils ont été frappés à mort. Voilà. Certains sont tombés et ils ne se sont pas relevés.
Angelo Pistelli de Ronchiglione, 22 août 1893. Les Salins étaient surveillés par 12 gendarmes à cheval. Vers les 9 heures, nous vîmes sur la route principale un gendarme qui arrivait à toute allure dans les Salins en criant « sauf qui peut » aux Italiens.
Alors c'est un véritable massacre, comme des bêtes qu'on amène à l'abattoir. Les Italiens se couchent sur la route, épuisés, attendant la mort, lapidés, assommés. Laissant à chaque pas l'un des leurs.
Des pierres énormes sont lancées de tous côtés.
Les cavaliers leur font rempart, mais les pierres pleuvent, le sang ruisselle.
Nous vîmes une masse énorme de personnes armées de tout ce qu'elles avaient pu trouver, qui se ruaient sur nous en hurlant. En quelques minutes, les deux baraques où nous nous étions réfugiés furent cernées.
L'assaut commença, le toit fut enfoncé, les volets jetés par terre et la porte fracassée à force de coups qui retentirent. Sourds et lugubres, ce fut un moment terrible. On prit la décision de sortir et d'affronter la foule.
À chaque pas, on est forcé de laisser sur le sol des victimes sans défense, que des forcenés viendront avec une sauvagerie sans nom, achevée à coups de matraque. La plupart d'entre nous s'enfuient par les champs et réussit à se sauver. Les autres, une centaine environ, nous fûmes placés sous la protection des gendarmes qui nous promettaient de l'aide.
On va vous raconter ce qu'il s'est passé il y a quelques années. Le massacre a commencé. Ils ont travaillé dur sur les marais. La boulangère affolée les a sauvés. Les 10 Italiens mouraient, sans autres étaient blessés. Les derniers s'en allaient et fuyaient. Le racisme, c'est illégitime. C'est parti trop loin pour pas grand-chose. C'est horrible. C'est la faute des gens qui les font travailler inhumainement.
Les victimes du massacre d'Aiguemorte.
Aiguemorte, 16 et 17 août 1993.
Carlo Tasso, 58 ans.
Bartolomeo Calori, 26 ans.
Giuseppe Merlo, 29 ans.
Giovanni Bonetto, 31 ans.
Lorenzo Rolando, 31 ans.
Paolo Zanetti, 29 ans.
Amadio Caponi, 35 ans.
Secondo Tortio, 24 ans.
Cafaro Vittorio, 29 ans.
Inconnu.
Quelle a été votre réaction après avoir appris ce massacre ?
Alors, ce massacre, évidemment, la première réaction, évidemment, je ne l'ai pas vécu, mais c'est une consternation parce que ça a été tellement violent que on peut être que choqué, très honnêtement. Hein. Donc, c'est consternant. Ben, nous, quand on a accueilli des étrangers, eh ben, on les a massacrés. Mais vous savez, il n'y a pas que les Italiens hein, qui ont été la cible. Dans le Nord, à Liévin, à Lens, c'était les Belges. Mais il y a eu des bagarres terribles. Hein, à Lens, à Liévin, ça y allait. Il y a eu les Belges, on les a foutus dehors. Après, plus tard, c'était les Polonais. Mais Belges et Italiens, en 1890, de ces années-là, c'était pas le bienvenu en France. Hein, mais c'était comme ça.
Quel est votre lien avec le massacre des Italiens à Aiguemorte ?
Je suis venu à Aiguemorte quand j'ai commencé mon livre. C'était déjà il y a très longtemps, c'était il y a au moins 5 ans.
Baru, dessinateur de BD.
Je raconte tout ça, c'est parce que je suis concerné au premier chef, parce que je suis moi-même un fils d'étranger. Mon père était italien. Quand il est venu en France, il avait 7 ans. Et son père, mon grand-père, c'est lui qui avait émigré. Et à partir de là, il a dû subir le sort que l'on réserve aujourd'hui à tous les étrangers dans ce pays, à savoir d'abord de la haine, puis du mépris, et enfin voire jusqu'à à une certaine forme d'exaction. Ces massacres d'Aiguemorte, c'est le début de mon livre. J'ai voulu commencer ces livres-là par cet événement-là, c'est-à-dire par cette violence-là, parce que je pense que c'était celle qui résumait tout ce qui allait être raconté dans les bouquins. Le livre s'appelle Bella Ciao. Et en fait, c'est une série en 3 volumes. Je l'ai conçu sur un truc fondamental. C'était quel est le prix que doit payer un étranger pour devenir transparent dans la société française, c'est-à-dire ne plus exister en tant qu'étranger. C'est parce que le prix à payer pour les étrangers pour devenir français a été très lourd. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts même.
Pour vous, quelle importance a le massacre d'Aiguemorte dans l'histoire des immigrants italiens ?
Ça m'a fait vraiment bizarre, c'est quand j'ai ressorti cette histoire-là, tout le monde et la majorité des gens tombaient des nues, littéralement. Ils ne comprenaient pas comment on avait pu ne pas savoir ce qui s'était passé. Parce que quand même, 10 morts, c'est quand même pas rien, 10 morts.
Nous, aujourd'hui, on a tous 14 ans, on vit tous ici, mais pourtant, avant ces séances, on ne savait pas du tout cette histoire. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'était pas au courant ?
Oui, alors c'est une question, je vais vous expliquer. On va dire qu'Aiguemorte, maintenant, c'est une petite ville. On est à combien ? 9 000 à peu près, 9-10 000 à peu près, Aiguemorte en gros. Bon, à cette époque-là, on est en 1893, il y avait, je crois... On n'avait pas 4000, on était à 3900 et quelques personnes. Donc c'est un petit village. Le problème, c'est qu'il y a des gens du village qui ont été impliqués dans cette tuerie. Alors c'était toujours difficile de désigner quelqu'un du doigt, surtout dans les villages. Et surtout, à l'échelle française, on a mis une chape de plomb sur cette affaire. Il ne fallait plus en parler. Ici, c'était plus difficile parce que, tout le monde la connaissait. Alors, on sait qui a fait quoi. Et le problème, c'est que pendant des années, les descendants de ces gens qui ont été impliqués, mais dans le mauvais sens du terme, des assassins, n'ayons pas peur du mot, hein, Ces gens vivent toujours là. Ils sont toujours là. C'est les mêmes noms. Ils sont toujours là. Ce sont les descendants. Alors, ils apprécient mal qu'on parle mal de leur famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je joue sur du pain béni. Je veux dire, mon arrière-grand-mère, elle a sauvé des gens. C'est facile d'en parler. Je veux dire, j'ai pas de mérite, pratiquement, vous voyez. Mais quelqu'un dont les parents ont assassiné à coups de marteau des Italiens qui étaient à terre, c'est moins facile d'en parler. Moi, Aigues-Mortes, j'ai pas eu d'opposition parce qu'en tant qu'Aigues-Mortais, déjà, je pouvais me permettre, parce que je connaissais bien les Salins, je travaillais longtemps au Salins, ma famille a travaillé les Salins, je connais bien les mentalités, je suis ce qu'on appelle un enfant du pays. Donc, vis-à-vis des gens qui étaient opposants à cette affaire des Italiens, j'ai été assez bien accepté. Parce que je n'ai pas détérioré la vérité, hein. J'ai dit les faits comme ils se sont passés, comme je pense qu'ils se sont passés, avec le plus d'intégrité dans mes travaux, sans non plus enjoliver, sans non plus masquer la vérité, parce que ce n'est pas mon genre. Voyez, parce que c'est toujours facile, quand quelque chose est désagréable, de ne pas trop en parler. Eh bien, moi, je n'ai pas fait ça.
Est-ce que cette histoire vous a marqué ?
Est-ce que cette histoire m'a marqué ? Ben, je pense que oui, quand même. Hein. Elle m'en marquera jusqu'à mon dernier jour. Parce que, vous ne le savez pas, mais moi... bon, là, j'ai un nom français maintenant, parce que dans la famille... Mais en fait, je suis d'origine italienne, au départ. Hein. Nous, on est arrivés à l'époque de Napoléon Ier. On est partis d'Italie parce qu'on crevait de faim, ma famille. Cette question des Italiens, c'est un peu mon passé. Ceux qui me connaissent, je le dis tout le temps, hein, c'est la phrase de Foch, vous la connaissez, du maréchal Foch, non ? Un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Moi, je la prends pour moi, cette maxime. Hein, donc, pour moi, c'est important de transmettre aux générations, en l'occurrence la vôtre. Après, vous en serez juge vous-même, et si vous voulez plus en parler, vous n'en parlerez plus. Personne ne vous jettera la pierre. Mais au moins, vous saurez. Voilà. Après, vous agirez en conséquence, si ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Mais au moins, vous ne serez pas dans l'ignorance de ce qui s'est passé à Aigues-Mortes. Parce qu'Aigues-Mortes, ce n'est pas que le flamboyant Moyen-Âge, hein, ce n'est pas du tout ça. Ça a été qu'une époque, ça. Le 19e, ça n'est une autre. Et si on se plaît à faire les... Ce que j'ai rien contre, hein, les départs des croisades, les fêtes de la Saint-Louis, qui est une bonne chose chaque année, on ne fête pas le drame des Italiens. C'est jamais facile, vous savez, de parler de meurtre. Hein. On ne dit pas qu'on est fier de ce qu'on a fait, mais on ne rejette plus de nos jours ce passé. On prend le bon et on prend le moins bon avec.
Merci encore, Luc Darroch.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.
Nous, les Aigues-Mortais, on va vous raconter l'histoire des marais. Les Italiens vivaient l'enfer et eux voulaient leur dire allez vous faire. Les Aigues-Mortais étaient en tort, les Italiens méritaient pas la mort. La boulangère a ouvert ses barrières pour assurer leurs arrières. Tués à coups de pierre, jetés, certains sont blessés. Tout est en ruine dans les salines, ils prennent leurs valises. Les marais sont leurs hantises. La violence ne résout pas les problèmes. Italiens ou Français, on est tous humains humaines.
Moi, je sais que la consigne que donnait mon grand-père à son fils, à mon père, donc, c'était de lui dire « Surtout, ne fais pas de vagues, ne réponds pas, etc. etc. » Donc, automatiquement, c'était de faire un petit peu figure basse pour ne pas avoir des vrais problèmes trop graves. Quoi.
Encore cette histoire a un écho dans notre époque actuelle.
Sortez dans la rue, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte que c'est encore... Je veux dire quelque chose de très contemporain. C'est une histoire d'aujourd'hui. J'ai choisi, moi, de raconter Bella Ciao en partant depuis la fin du 19e siècle. Et parce que je voulais parler, moi, de ce qui se passe aujourd'hui. Et tout Bella Ciao, peut-être 350 pages, ne parle que de ça, que du prix à payer.
Qu'est-ce que la BD apporte dans le fait de raconter ce massacre ?
J'espère que... Bella Ciao, que mes trois livres vont contribuer à faire en sorte que les gens, les Français, accueillent mieux les étrangers que par le passé. C'est juste cette chose-là. C'est un peu long, mais je suis vraiment content d'avoir parlé. C'est tous les gamins qui sont là, sont des descendants de d'étrangers, quoi. Ben c'est formidable, je suis très heureux de les avoir rencontrés. Même si, pour moi, ce que je vois ici sur l'écran, c'est tout pixelisé, c'est une cata. Quoi. Et au revoir.
Ficelle cruelle, mémoire enfouie d'aigues mortes. Un podcast rappé et raconté par les 4e B du collège Irène Joliot-Curie, aigues mortes. Avec Luc Martin, aigues mortes et historien, et Baru, dessinateur de BD.
Stanislas,
Alicia,
Maxence,
Andrew,
Mounir,
Nohan,
Dizzy,
Adelina,
Marcel,
Luca,
Alistair,
Maceo,
Lana,
Luca,
Rita,
Alexia,
Lilia,
Lucie,
Sophia,
Fatima Zara,
Lou,
Kaina,
Amina,
Manel,
Vincent,
Elsa,
Rima,
Lohan,
Lisa.
Celle cruelle. Un cycle d'éducation aux médias encadré par Martin Baudrero et Anna Buy, avec Stéphanie Claude Roux et Anne-Valérie Millefranc, professeurs au collège Irène Joliot-Curie. Un projet coordonné par Tristan Goldbraun pour l'association La Chance pour la diversité dans les médias, avec le soutien du département du Gard et des Cordées de la Réussite. La création musicale originale est signée Brin d'Ours. Un immense merci à Baru et Luc Martin pour avoir pris le temps de nous partager leurs histoires.